Donc, on continue les messages concernant comment interpréter la parole de Dieu. Donc, je voudrais commencer un petit peu aujourd'hui juste en faisant quelques explications. Non, c'est pas cela. Personne ne voit ce qui est caché. Voilà. Ah oui, c'est là. Parce que ce sont des informations un peu en arrière-plan pour ce que je vais dire aujourd'hui. Et donc, il y a eu la réforme. Donc, avant la réforme, le grand christianisme était catholique et orthodoxe. Il y a la réforme dans l'Occident. Donc, il n'y avait pas eu de réforme en Orient. Et puis, après la réforme, donc, la réforme était il y a 500 ans, ça a commencé. Donc, à peu près mi-chemin, 250 ans, il y a à peu près 250 ans, on va appeler ça le post-réforme, après la réforme, d'accord? Dans la façon que les réformateurs interprétaient la Bible, ils ont utilisé un système qu'ils avaient pris dans les écrits d'Augustin. Donc, Augustin qui a écrit dans les années 300 à peu près. Et ça s'appelle la théologie des alliances. La théologie des alliances. Donc, ce mot « alliance » va revenir souvent dans la prédication aujourd'hui. Dans les alliances, on interprétait d'une manière non littérale. Ce n'est pas une interprétation absolument non littérale, mais c'était beaucoup dans le sens des choses qui ont un rapport avec la prophétie. On voyait de manière allégorique, de manière floue. On ne voyait pas comment Dieu pourrait littéralement accomplir ces prophéties-là. Donc, non littéral. Ils avaient trois points dans cette façon de penser. C'était la première alliance, c'était de rédemption. La seconde alliance, c'était des œuvres. Et la troisième alliance, était de grâce. L'alliance de rédemption, c'était... Donc, je parle de comment eux, ils pensent, d'accord? Ce n'est pas moi qui crois ces choses, mais là, mais je vous les explique. Dans l'alliance de la rédemption... Avant la création, Dieu a fait une alliance avec la future humanité. C'est une alliance qu'il a fait avec lui-même et la future humanité par laquelle Dieu a déterminé qui allait être sauvé. Donc, on dit, entre guillemets, le calvinisme. D'accord? C'est la prédestination et tout ça. Ça, c'est l'alliance de la rédemption. Donc, comment Dieu allait sauver les gens? Dans l'alliance des œuvres, c'est une alliance que Dieu a fait avec Adam. Dit la réforme. Donc, Adam, s'il agissait bien, Dieu allait le sauver par ses œuvres. Mais il a péché et donc il ne pouvait pas être sauvé par ses œuvres et donc il était perdu. Et donc est entrée la troisième alliance, l'alliance de la grâce, par laquelle Dieu sauve par la foi. Donc, par la grâce, moyennant la foi, ceux qui sont dans l'alliance de la rédemption. Les autres sont perdus. Donc, si vous n'êtes pas inscrit avant la création du monde, vous n'avez pas l'espoir parce que vous êtes perdus d'office. D'accord? Et donc, ça, c'est la façon d'interpréter l'écriture. Et je vous dis, c'était la réforme. Ce n'était pas quelques-uns. C'était après plus de 1000 ans de catholicisme. Eh bien, c'était la façon qu'ils ont trouvé de ne pas être catholiques. Donc, on ne va pas les condamner d'office comme ça, ils ont des bonnes choses. Mais la base de leur moyenne, leur façon pour interpréter les Écritures n'était pas correcte. Et ça a donné pas mal de pratiques politiques. Hein, parce qu'à l'époque de la Réforme, soit vous étiez catholique avec un prince catholique, ou bien vous étiez protestant avec un prince protestant. Et si vous n'avez pas l'un ou l'autre, vous étiez un hors-la-loi, donc vous étiez un croix, un baptiste. OK? Donc, les protestants sont là, et après presque 300 ans, 200 quelque chose d'années, 250 ans, on a commencé à dire, donc je vais expliquer une certaine partie de ça à peine à la prédication, que la prophétie dans les alliances ne fonctionnait pas. Ils attendaient une tribulation de 7 années sur la persécution de l'Église catholique. Et les 7 ans sont devenus 200 ans. 250 ans. Et on a commencé à dire, ben non, il faut interpréter différemment les Écritures. Donc on a commencé à interpréter les prophéties, surtout les prophéties, littéralement. Tout ce qui a rapport avec la prophétie, littéralement. Ce qui a donné ce qu'on appelle la théologie des dispensations. Dans les dispensations, donc on fait une différence entre les époques. Okay? Donc Dieu a fait des promesses à droite et à gauche, des groupes différents. Et ça donne ces points-là, innocence, conscience, gouvernement, promesse, loi, grâce, règne de Christ. Et le tout donne une application assez non politique. OK? Donc on va voir ces choses. Ça, c'est pour arrière-plan, pour vous aider. Je vais laisser ça au cas où je utilise un mot et vous allez dire, mais c'est quoi Dieu? Ça veut dire quoi? OK? Donc voilà, on commence. La dernière fois, j'ai dit que les Écritures sont compréhensibles. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours facile. Il faut quand même qu'on réfléchisse quand on lit les Écritures. Et donc, j'avais parlé la semaine dernière des principes généraux. Eh bien, la prochaine fois quand je parle, on va parler de l'unité dans les Écritures. Mais aujourd'hui, on va parler des distinctions qui sont dans les Écritures. Si vous voulez voir dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 15, 2 Timothée chapitre 2 et verset 15, nous avons ce verset. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ce mot « dispenser » signifie « ouvrir en droite ligne », « manier correctement ». Les racines signifient « couper avec exactitude » ou de manière pénétrante. C'est même le mot dissecter. Il y a donc des coupeurs, des distinctions dans la parole de Dieu et nous devons les respecter. Quand Dieu fait ou révèle ou déclare une distinction, donc nous qui lisons la Bible, nous faisons bien, n'est-ce pas, de respecter cette distinction. Ceci se relève des principes généraux concernant le contexte et la signification des mots. Un manque de respect dans ce domaine entraînera une mauvaise compréhension du texte et, comme nous allons voir malheureusement, aussi dans la pratique du christianisme. Et ça, c'est très souvent très triste. Souvent, vous voyez, si on a une fausse interprétation et applique ça d'une manière politique, ça va donner le gâchis. Pour comprendre ce sujet, il faut toucher un peu dans l'histoire du christianisme. Donc, j'ai déjà fait un tout petit peu, je vais donner un peu plus. Et en fait, ce que je ne vais pas vous dire, parce que c'est trop long, je l'ai écrit. OK? Donc, vous pouvez prendre ça si vous voulez des détails un peu plus historiques. Donc, pour comprendre, voilà l'histoire. Nous ne pouvons pas voir que les grands points de l'histoire. Donc, au début du christianisme, les Écritures étaient interprétées d'une manière plutôt littérale. Mais dans le 2e, 3e, 4e siècle, les théologiennes, donc, y compris donc, Augustin, s'écartaient de plus en plus du littéralisme. Puis, avec la désintégration progressive de l'Empire romain et l'invention de l'Église romaine, la pensée s'est développée que l'Église visible avait remplacer Rome et que l'Église visible était synonyme avec le royaume de Christ. Donc, pas un royaume futur, parce que le royaume était déjà. C'est-à-dire, les chrétiens sont arrivés à croire que le pape était le représentant terrestre du Christ, qu'il était la tête même du royaume millénaire. C'est la pensée du Moyen-Âge. Au XVIe siècle, Donc, fin du Moyen Âge, Renaissance, 16e siècle, c'est la Réforme. L'Église de Rome était si corrompue que des masses du christianisme ont voulu réformer l'Église de Rome. Donc, quand on dit la Réforme, ce n'est pas devenir biblique, c'est réformer l'Église de Rome. C'est le point de référence, c'est réformer l'Église de Rome. Le résultat était la division du christianisme occidental en trois parties. Donc, l'Église catholique était encore là, les églises protestantes liées aux États et les églises anabaptistes libres des États. Les catholiques et les protestants croyaient toujours à l'idée que le gouvernement était sous le règne de Christ par l'administration de l'Église. Mais les protestants croyaient que l'Antichrist s'était installé à Rome dans la personne du pape. Les persécutions à cette époque-là étaient si sévères que les protestants croyaient que le royaume de Christ avait déjà pris fin et que le monde est entré dans la tribulation, qui est décrite, bien sûr, dans l'Apocalypse. Les protestants attendaient l'arrivée du Christ en personne pour les délivrer et pour terminer l'histoire de la planète. Pour les protestants de l'époque, l'enlèvement, la résurrection et la fin du monde étaient tous la même chose. Dans la suite de l'histoire, jusqu'à nos jours, beaucoup d'églises protestantes ont maintenu cette croyance selon laquelle elles n'attendent que la fin du monde. Donc, pour vous dire, ça fait toujours une application politique. Si on attend la fin du monde, il faut que nous évangélisons le monde afin que le monde soit chrétien. Vous comprenez? Nous, on ne fait pas ça. On n'évangélise pas le monde pour que le monde soit chrétien, mais que les individus soient chrétiens. Il y a une grande distinction là. Okay? Ça a donné, par exemple, que quand Servitus à Genève avait était anti-trinitaire, donc il ne croyait pas à la Trinité, et Calvin était donc maire, chef de Genève, eh bien, ils l'ont brûlé. Ils ont brûlé Schumpoto. Pourquoi? Parce que c'était un hérétique. Il était hors la loi. Okay? Donc ça donne des positions politiques dans cette façon de l'époque, et ça fait aussi des mouvements politiques, je sais, dans mon propre pays, aujourd'hui, ça fait certains mouvements politiques. Cependant, dès le 18e siècle, un nombre croissant de croyants ont commencé à voir que plus de 200 années étaient écoulées sans que Jésus vienne terminer la tribulation. La tribulation de 7 ans, de 200 plus années. Donc, ils se sont alors penchés sur les textes prophétiques et ont commencé à voir que les prophéties interprétées littéralement enseignaient un avenir bien plus détaillé. Donc, quand j'explique globalement l'interprétation dispensationaliste, met plein de petits détails dans le futur. Okay? Quand on fait une interprétation selon les alliances, on voit une grande globalité, fin du monde, mais sans des détails. Une grande splash, mais pas les petits points. Okay? C'est un peu comme ça. Donc voilà, j'ai préparé ça, que je vais mettre ici, une présentation de la théologie des alliances. Covenant Theology, pour les anglophones. Vous pouvez prendre ça. Donc aujourd'hui, dans le monde protestant évangélique, il y a principalement deux modèles pour interpréter les Écritures. Un, deux. Ça, c'est les deux pôles de côté. Okay. La première, c'est les alliances, que je vous ai déjà expliqué, qui est tout à fait dans la tradition protestante, donc calviniste de base. Dans le temps de la Réforme, toutes les églises partageaient cette optique. Qu'elles ont trouvé, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les écrits d'Augustin. Or, nous pouvons compatir avec la difficulté de réinterpréter les Écritures après plus de 1000 ans d'erreurs catholiques. Ce n'était pas facile C'était pas facile ouvrir la Bible et lire autrement. Aujourd'hui, beaucoup d'églises et de chrétiens suivent encore cette optique. L'autre modèle, donc pour interpréter les Écritures, s'appelle la théologie des dispensations. Celle-ci est plus récente. Donc les théologiens de l'Alliance ne croient pas aux dispensations. Par contre, la majorité des évangéliques suivent le modèle de la théologie des dispensations. Pourquoi? Parce que la théologie des dispensations découle de l'interprétation littérale des Écritures. Et c'est pour cela même que nous y adhérons. C'est parce que c'est littéral. Le modèle des alliances n'a pas eu tout faux, mais il n'a pas non plus vu juste dans tous les domaines. Aujourd'hui, bien que beaucoup de monde reste dans un camp ou l'autre, eh bien, un certain nombre de chrétiens puisent aléatoirement ce qu'il aime ça, et puis il mélange ça. OK? Et ça, c'est souvent comme ça, mais c'est un peu difficile de trouver un consensus quand vous prenez les deux pôles opposés en théologie. Donc, nous ne partageons pas les idées et pratiques de la théologie de l'Alliance, et ceci parce que elles ne ressortent pas d'une interprétation littérale des Écritures. L'interprétation littérale fait ressortir les distinctions dans la Bible et nous devons les respecter. Nous pensons que le temps sur la terre, nous en tant que dispensation, hein, nous pensons que le temps sur la terre est divisé bibliquement en sept parties. Certains principes traversent plusieurs de ces sept périodes. Par exemple, le mariage fait partie de toutes les dispensations. D'autres principes sont annulés par l'arrivée d'une nouvelle période et il ne faut plus donc revenir en arrière. Par exemple, les sacrifices se terminent avec la crucifixion de Christ. Okay? D'un point de vue global, le modèle des dispensations présente d'une manière équilibrée et digne, l'éternel, omniprésent, omnipuissant, omniscient, immuable et trois fois saint. Tout cela pour dire qu'il y a des distinctions qui existent dans la Bible. Donc je vais donner un premier, c'est la distinction entre les trois ethnies. C'est-à-dire, le Nouveau Testament distingue trois groupes ethniques. Donc, les Juifs, les Grecs, et par les Grecs, on veut dire les gentils, les nations, les païens, et puis l'Église de Dieu. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 32, vous n'êtes pas obligé de tourner, c'est très court, nous lisons « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Donc, on voit, la Bible dit qu'il y a trois groupes, les Grecs, les Juifs et l'Église de Dieu. Et parce que, par ce verset, donc l'Esprit dit nettement que ces groupes existent, coexistent actuellement, donc il ne faut pas les confondre. Je ne suis pas juif. Je suis croyant en Jésus-Christ. Donc, je suis dans quel groupe? L'Église de Dieu. Certes, l'Église se compose des juifs et des non-juifs convertis à Jésus-Christ. Pourtant, l'Église ne prend jamais la place d'Israël. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 9 à 11, tout ce texte-là, cette grande partie de l'Épître, a été inspiré justement pour attester que Dieu ne déshéritera pas, déshéritera jamais Israël. Hein? Les attentes de Dieu et les promesses de Dieu sont différentes pour chacun de ces trois groupes. Encore une autre distinction, c'est les deux testaments. Il est nécessaire de bien distinguer entre les pratiques de l'Ancien Testament et les pratiques et les doctrines du Nouveau Testament. Alors, oui. Donc, par exemple, à l'époque de l'Ancien Testament et dans les Évangiles, le Saint-Esprit venait non pas sur tous les croyants, il n'habitait pas dans les croyants, mais il venait sur les personnes choisies afin d'accomplir un ministère particulier. Donc, j'ai dit un ministère, un service, un mandat, c'est tous la même chose. Puis, à l'accomplissement du mandat, le Saint-Esprit quittait la personne. Le Saint-Esprit venait sur la personne, saisissait une personne. Donc, je mets une liste de Samson, Saoul, David, Moïse, les 70 anciennes avec Moïse, Balaam, qui n'était même pas juif, les juges, les prophètes. Le Saint-Esprit saisissait la personne pour son service, puis le Saint-Esprit se retirait de lui après l'accomplissement de son mandat. Sa présence n'était pas permanente avant la croix. La présence du Saint-Esprit habitant chez le croyant depuis la croix, est une distinction majeure entre les deux testaments. Donc, je donne Samson comme un bon exemple du Saint-Esprit qui va quitter le croyant de l'Ancien Testament. Aussi, David, dans une prière, psaume 51, il demande que Dieu ne retire pas son Saint-Esprit. En tant que chrétien, vous ne devez pas prier cette prière-là. Pourquoi? Parce que une telle prière montrera chez vous un manque de confiance dans les paroles de Jésus quand il a promis que le Saint-Esprit habitera éternellement en vous. Donc, c'est comprendre David dans sa prière, c'est parce que c'était avant la croix. Ne retire pas ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans la prière, merci pour ton Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas la même prière parce qu'il y a eu la croix entre deux. En effet, depuis la croix, à partir du jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit prend résidence de façon permanente dans chaque croyant. Donc avant, c'était que celui qui avait un travail spécial à faire pour Dieu. Maintenant, c'est tous les croyants. Pourquoi? Parce que tous les croyants ont un travail spécial à faire pour Dieu. Et c'est donc la promesse que Jésus a faite dans Jean chapitre 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure quelques jours, quelques mois, quelques années, non, éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » C'est après la croix. Okay? Quelques semaines plus tard, l'Esprit est arrivé, comme promis, dans Actes. Donc, je vais lire Actes 1. Vous pouvez voir, si vous voulez, Actes chapitre 1, versets 4, 5 et 8. Ça révise un petit peu la promesse. Je vais lire chapitre 1, versets 4, 5 et 8. Comme ils, donc comme Jésus, se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ou, c'était dans Jean 14, 15, 16 et 17. Car Jean l'a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse du Saint-Esprit reste valide pour tous ceux qui vont croire à travers les siècles, qu'on lit dans le verset 28 du chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 38 et verset 39. Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, donc en ce qui concerne le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit, donc, qui représente notre salut, car la promesse du salut, la promesse de présence du Saint-Esprit, et pour vous, vous qui croyez, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça veut dire que vous aussi sont concernés par ce verset parce que vous êtes assez loin de l'année 30. Hein? Qu'est-ce qui a changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour permettre le Saint-Esprit de prendre résidence dans le croyant? Comment ça se fait que le Saint-Esprit peut vivre en vous et il ne pouvait pas vivre en Samson ou David? C'est quoi la différence? Vous le savez, c'est quoi? C'est la crucifixion de Christ. Il est mort pour nos péchés. Avant, on attendait que les péchés soient enlevés. À la croix, ils étaient enlevés. Donc, en attendant que les péchés soient enlevés, le Saint-Esprit ne pouvait pas cohabiter dans une personne qui était salie du péché. Maintenant, les péchés sont enlevés, le Saint-Esprit a pris résidence dans les croyants. Donc, voilà votre corps et le temple du Saint-Esprit. Alors, vous ne devez pas, puisque le Saint-Esprit est en vous, vous ne devez pas, mais malheureusement, vous pourriez éteindre le Saint-Esprit en vous opposant à son œuvre en vous et à travers votre personne. De même, vous ne devez pas, mais malheureusement, vous pourriez attrister le Saint-Esprit par vos péchés. En revanche, vous ne pouvez jamais chasser le Saint-Esprit qui habite éternellement en vous. Jamais. Jésus a dit que la présence du Saint-Esprit est éternelle. Paul a dit ensuite que sa présence est la preuve même, la gage, la première installation de notre salut éternel. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, vous pouvez chercher si vous voulez, Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, nous lisons « En lui, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage céleste, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Aussi, c'est plus large, mais toute l'épître aux Galates a été écrit exprès pour distinguer entre les deux testaments, afin de mettre une distance entre les chrétiens et la loi de Moïse. Nous lisons dans Jean chapitre 1 que Jésus est venu pour accomplir la loi. Il a fait, c'est fini. Donc on lit, la loi est venue par Moïse. Mais en contraste, la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi, c'est la condamnation du pécheur. Mais la grâce, c'est le pardon du pécheur. On devrait même dire, la grâce, c'est le pardon du condamné. Depuis que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et est revenu à la vie, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est fini. Il n'y a plus ni punition religieuse pour le péché. Alors, si l'Église catholique avait compris ceci, il n'y aura jamais eu des prisons attachées aux églises, ni des piloris publics, ni les bûchers pour brûler les hérétiques. Cette théologie est quand même attachée à une ancienne pensée catholique. C'était pour réformer l'Église catholique qu'ils ont développé ces idées, mais ils ont quand même gardé beaucoup d'idées politiques. Contrairement à l'espoir d'Israël, le Nouveau Testament est très clair sur le point que les chrétiens n'ont point de patrimoine sur la terre. Notre cité est céleste et non pas terrestre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13 dit, « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. » Et nous lisons encore dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, « Notre cité à nous est dans les cieux. » D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je ne peux pas prononcer ce mot. Encore, si les catholiques avaient compris cela, que nous n'avons pas un héritage ici-bas, eh bien, il ne serait jamais allé en croisade pour libérer la Terre Sainte des mains des musulmans. Et encore, Si l'Église catholique et orthodoxe, donc liée au pouvoir temporaux, n'avait pas persécuté les chrétiens non conformistes en Égypte, l'appel de secours qui a démarré l'expansion musulmane n'aurait jamais été lancé. C'était pour secourir les chrétiens non conformistes qui étaient persécutés par les chrétiens catholiques que les musulmans ont quitté l'Arabie pour faire la guerre à cause d'une optique politique des chrétiens. Notre monde sera bien différent aujourd'hui si les chrétiens d'autrefois avaient respecté la différence entre les deux testaments. Maintenant, je vais parler des dispensations. Ça, c'est une grande et grande distinction qui sont dans la Bible. Donc, le mot dispensation veut dire économie ou administration, gestion, management, comptabilité. C'est ça que ce mot veut dire. Et dans le sens de la théologie, ce mot, donc c'est ce mot-là, ce mot signifie les diverses façons que Dieu a géré ou administré l'humanité à travers les siècles et les millénaires. Comme dit auparavant, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à l'existence des dispensations. Il n'est pas l'objectif, en ce moment, d'engager dans une bataille de mots. Notre intérêt est seulement dans l'objectif de mieux comprendre les Écritures. Voyons donc quelques distinctions dans les Écritures. Et pour ça, j'ai... Ah voilà, c'est cela. Maintenant. Donc j'ai fait ce tableau pour nous aider à comprendre les distinctions dans la Bible. Donc premièrement, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est une distinction. Il y a des gens comme les Adventistes qui puisent beaucoup dans l'Ancien Testament. Pourquoi? S'ils sont croyants, ils devraient être dans le Nouveau Testament. Okay? Donc, on a déjà les deux testaments. Il est important au moins de faire cette distinction entre les deux testaments. Le Seigneur Jésus lui-même, ainsi que Paul, ont fait des distinctions aussi entre la Genèse et le reste de l'Ancien Testament. La Genèse et le reste de l'Ancien Testament. Il y a des distinctions faites par Jésus et par Paul. Par exemple, Jésus dit que la volonté de Dieu donnée dans la Genèse était le mariage à vie, tandis que sous la loi de Moïse, il a permis le divorce. Encore, faut-il faire une distinction entre la vie parfaite dans le jardin et la vie après le péché. Et encore, avant le déluge et après le déluge, et encore, il y a en les écrits de Jésus et de Paul des distinctions entre Abraham et la loi de Moïse. Abraham le païen. À Galates et en Hébreux, on insiste que Abraham n'était pas un juif. Il est le père des juifs. Mais il n'était pas un juif. Ça fait une distinction très importante. Donc, on compte déjà. La première période, avant le péché, Adam. Après le péché, donc, deux. Entre le péché et le déluge, trois. Entre Abraham et la loi de Moïse, quatre. La loi de Moïse, cinq. Et notre époque, les chrétiens, c'est six. Et puis, il y a cette question. Les réformés croyaient que Jésus n'allait pas revenir. Je veux dire, pour établir un royaume. Et dans les dispensations, on croit que Jésus va revenir. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient un bagage historique. Ils avaient une persécution très sévère. On ne peut pas les plaindre. C'est pas nous qui subissons ça. Mais quand on lit littéralement les Écritures, il y a plein de références que Jésus va revenir et il va établir un royaume physique, millénaire, pendant lequel il va régner sur la terre. Et c'est pour cela que nous mettons une septième période qui est toujours dans le futur. Nous, on vit sous le Nouveau Testament. OK? Donc, j'ai mis ici un tableau qui montre les dispensations dans le sens plus clair. Et on ne va pas parler de ça, c'est simplement vous pouvez le voir comment ça fonctionne un peu mieux. Le point, c'est que la Bible a défini elle-même, par une interprétation littérale, plusieurs distinctions ou administrations ou dispensations. Nous devons les respecter pour bien interpréter, afin de bien appliquer les Écritures. La chose, c'est que on voit une progression à travers l'histoire. Quand on utilise cette méthode de l'Alliance, c'est une histoire de la planète. Quand on utilise les dispensations, on a une progression dans l'histoire de la planète. Donc, notez que les premières quatre dispensations sont dans la Genèse. Tout ça, c'est dans la Genèse. Elles servent de fondation et d'explication pour la nation d'Israël et pour le reste du contenu de la Bible. Le cinquième, donc ça c'est l'Ancien Testament qui se termine à la croix, donc ça comprend les évangiles, mais les évangiles en préparation pour le reste du Nouveau Testament, bien sûr. Et dont Jean est le dernier prophète. Le sixième, donc c'est ce que j'ai dit chrétien là, il y a d'autres, on utilise là, comme ici j'ai dit grâce. D'autres personnes disent église, bon ça c'est aléatoire ce qu'on va utiliser comme désignation. C'est le sixième. Donc Dieu, il gère, il agit à travers les croyants actuellement. Et puis à la fin, il y a le royaume de Christ dont les prophètes ont parlé dans les deux testaments. Donc une compréhension globale, je ne dis pas détaillée, il y a des gens qui passent tout le temps à essayer de comprendre les dispensations. Moi, je ne pense pas que c'est très utile. Mais une compréhension globale des dispensations va vous aider à éviter de la confusion et aussi vous aider à voir le plan de Dieu à travers l'histoire de la planète. Donc, ici j'ai marqué en haut les événements et ici c'est les titres. Donc, je pense que vous pouvez les voir globalement, c'est innocence, conscience. Ah oui, donc regarde, confiance en Dieu pour le salut. Ici, ils ont l'alliance des œuvres. Ils enseignent que si Adam avait bien agi, Dieu l'aurait sauvé. OK? Mais le problème, ce n'était pas les œuvres d'Adam. Le problème, c'était sa manque de confiance. Pourquoi Adam a péché? Pourquoi Ève a péché? Ils ont perdu confiance en Dieu. Ils avaient un manque de foi. OK? Donc, confiance en Dieu pour le salut, ça traverse toutes les dispensations, toute l'histoire. Il faut croire, il faut avoir confiance en Dieu pour être sauvé. Le mariage traverse tout le temps. Au début, on était végétarienne pour les deux premières dispensations. Et après, on était omnivore. On ne devait plus être végétarienne. Et on, je ne sais pas ce qui arrive dans le millénaire. Là, je ne connais rien là. Les sacrifices pour les péchés étaient jusqu'à la croix. Aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifices parce que Jésus, notre sacrifice, est déjà fait. Gouvernement par des hommes, gouvernement était accordé ou confié aux hommes pour gérer les hommes jusqu'au millénaire, quand Jésus va gouverner les hommes. Et puis Dieu agit à travers Israël, la nation d'Israël, jusqu'à ce que maintenant il agit à travers nous, les croyants, et dans le millénaire, Dieu va agir pour lui-même. Vous voyez, donc il y a des distinctions à faire. Je saute un peu. Pour nous, en tant que chrétiens, notre loi, c'est la loi de Christ. Ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi de Christ. L'amour du prochain. Quand vous marchez, c'est dans la loi de Christ. Vous pratiquez le bien envers les autres et donc vous ne pouvez pas leur faire du mal.
C'est pour cela que l'amour accomplit automatiquement la loi morale. Sous l'administration du Nouveau Testament, il n'y a pas de règles de punition, ni de sacrifice, ni de fête officielle et obligatoire. Ce que Dieu demande de vous, vous qui croyez en Jésus-Christ, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Et puis, à la fin, eh bien, quand tout est terminé sur la terre, les temps sur la terre se termineront et chacun passerait à l'état éternel prévu pour les justifier et pour les condamner. Il est important que vous vous préparez pour l'éternité des justifiés. Pourquoi vous préparez pour l'éternité des condamnés? C'est pas la peine. Hein? Préparez-vous par Jésus-Christ. Chacun recevra l'avenir éternel de bonheur ou de misère qu'ils auraient préparé. Par la foi en Jésus-Christ ou par une ignorance du Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire un petit résumé. Chez les non-catholiques, il y a deux modèles pour interpréter la Bible. Donc, je vais les donner là. Soit les alliances, soit les dispensations. En dépit de sa position, je vais dire, d'honneur pendant la Réforme, l'histoire montre que le modèle des alliances a entraîné une certaine confusion et beaucoup d'injustice. Le second modèle, donc celui des dispensations, ressort d'une interprétation littérale des Écritures par le respect des distinctions et des descriptions annoncées dans la Bible. La planète a déjà passé à travers 5 dispensations. Nous sommes actuellement dans le 6e et nous attendons donc le millénium. Donc, concernant la question du salut, le salut est pour tous, par la grâce de Dieu, moyennant la foi. Donc, c'est pas que pour les élus, c'est pas pour les prédestinés. Le salut est annoncé à tous, à travers le monde. Tous ceux qui veulent croire ont le droit à croire et d'être pardonnés pour leurs péchés. Eh bien, nous attendons le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ et j'espère que vous partagez cette espérance aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.